18h-19h, Time Sport, avec Guillaume Ascari sur Beurre FM.
Et non, c'est Alex Seban aujourd'hui les amis, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Bienvenue dans Time Sport, votre émission qui vous parle de tous les sports du lundi au vendredi sur Beurre FM, beurrefm.net. Et n'oubliez pas l'application pour écouter, réécouter l'émission en podcast. Un programme chargé aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de monde en plateau également, des invités. Le naming, le Parc des Princes va-t-il changer de nom? On en parle dans quelques instants avec nos chroniqueurs. On aura un invité futsal, Mustapha Othmani, directeur sportif de l'UF Clichois. La Ligue des Champions aussi au programme avec le carton de la Discord, le carton jaune de la Discord de Sergio Ramos. Et puis, écoutez bien ce que je vais vous dire, on va parler du championnat du monde de tonte de mouton. Allez, go Time Sport.
Time Sport.
Bonjour à tous les amis, bienvenue dans Time Sport avec mes amis les chroniqueurs autour de la table. Je démarre par celle qui n'est pas officiellement autour de la table, elle est face à moi. Elle est radieuse, tout de bleu vêtue, Mariama Benrabia. Comment ça va, Mariama?
Bonsoir, ça va très bien, merci, et vous?
Super, super, on est là, on est chaud avec Saïd Hamdash, journaliste également, comme Mariama. Comment vas-tu, Saïd?
Ça va super, spécialiste du tondage de moutons. Je viens apporter toute mon expertise ce soir pour la France.
Pas de blague?
Non, pas de blague.
Pas de blague, les amis. C'est un honneur pour moi, c'est la première fois que je le reçois en tout cas autour de la table. Je sais qu'il est déjà venu, vous le connaissez. C'est Karim Baldé, comment ça va Karim, journaliste également?
Exactement, salut à tous.
Kamel Aït Kera, chef d'entreprise, comment ça va Kamel?
Ça va, merci.
T'es chaud toi aussi, hein?
Ouais, on est chaud.
Allez, c'est parti, on va parler de football. Mais bien sûr, j'oublie qu'on est 12 autour de la table. Il est derrière moi, vous pouvez pas le voir. Il est derrière moi, je le vois pas de base. Faut que je regarde dans la vitre là-bas, il y a un reflet et tout. C'est notre ami le coach, Claude Tollet. Bonjour Claude.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Et le meilleur évidemment pour la fin, puisqu'il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Notre invité, il va nous parler de futsal. Ce sera en deuxième partie d'émission vers 18h17, quelque chose comme ça. C'est le directeur sportif de l'UF Clichois, Mustapha Othmani. Salut Mustapha.
Salut à tous et merci pour l'invitation.
Bah merci, bienvenue à toi. Et on va partir tout de suite, tout d'abord, du côté du Parc des Princes avec le naming. Allez, c'est le ras-le-bol du jour, go.
Time Sport, le ras-le-bol.
Est-ce que le Parc des Princes s'appellera encore le Parc des Princes dans quelques semaines? On n'en sait rien, on a bien vu le Stade Vélodrome changer de nom. Il s'appelle plus officiellement Stade Vélodrome, mais Stade Vélodrome Orange. C'est bien, ça fait chic, on est dans l'air du temps et surtout chic. Ça rapporte.
Chic. Ça fait chic.
Oh, tu vas pas commencer. J'ai pas fini. Surtout, ça rapporte des sous, voilà. Les amis. Ah. C'est ça aussi qu'il faut dire. Après, on aime ou on n'aime pas. Voilà. Pas d'opinion de ma part aujourd'hui. C'est vous qui allez donner votre opinion. Donc, Saïd Hamda, puisque tu veux parler, tu n'apprécies pas visiblement que le Parc des Princes, que Nasser El Khelaifi, le président du PSG, veuille changer le nom, en tout cas, enfin, accompagner le nom Parc des Princes avec peut-être, je sais pas moi, Emirates ou je sais plus quoi.
Moi, je vais te dire une chose, Alex. Moi, j'apprécie l'argent. Donc, si ça rapporte de l'argent, pourquoi pas. Après, ça dépend. Il y a différents types de naming. Tu parlais du stade Vélodrome qui s'appelle Orange Vélodrome. C'est pas gênant puisque la plupart des gens disent Vélodrome et Orange, c'est que pour l'argent. C'est un peu plus gênant quand c'est, par exemple, le stade de Manchester City où on l'appelle Emirates. Où là, ça devient vraiment le nom du stade. Et là, le Parc des Princes a une identité propre. Donc c'est plus difficile de migrer vers un nouveau nom. Maintenant, si on a une marque qui va juste s'apposer à côté de Parc des Princes, ça va être repris dans les articles de presse, dans les communiqués, dans tout ce qui est officiel et paperasse. Mais quand les gens ils vont te dire je vais au Parc des Princes et pas ailleurs, et si ça rapporte de l'argent, tant mieux, c'est bénéfique pour le Paris Saint-Germain, sachant qu'ils en ont besoin après les grosses dépenses qu'ils ont engendrées.
Eh oui, le PSG a besoin d'argent, on le sait, on l'entend parler régulièrement, le fair play financier, il faut le respecter. Le Paris a besoin de trouver des nouveaux sponsors. Mariama, qu'en penses-tu, ça a un coût ou c'est une nécessité aujourd'hui dans le football de renommer son stade?
Une nécessité dans le football, non. Bon, en tout cas pour le PSG, certainement pas. On nous fait croire que ça va soi-disant, en tout cas, et de les aider dans le fair play financier, tout ce qui est... faire plus financier par rapport à l'UEFA, etc. Mais en fait, non, pas vraiment. Par rapport au budget du PSG, qu'est-ce que ça va représenter, tout ça? Pas grand-chose, au final. On nous fait croire qu'effectivement, ça va être un contrat juteux, mais pas du tout. Puisque en France, le naming ne représente pas grand-chose, en fait. On l'a cru à un moment donné, mais c'est pas le cas. Parce que la plupart des stades qui ont été, justement, qui ont eu recours à ça, en France, en tout cas, les contrats sont de l'ordre de 3 millions d'euros.
Est-ce que Paris, donc, peut-être, va Paris, avoir une somme supérieure ?
Un petit peu plus, peut-être, mais entre 5 et 8, tout au même, peut-être plus.
Ça peut payer le transfert ou rembourser le transfert de Rabiot.
Non, mais ça ne représente pas grand-chose par saison. Quand on voit justement ce que ça représente dans les championnats étrangers, comme en Espagne, en Angleterre ou en Allemagne, où là, pour le coup, les championnats sont plus importants et le niveau est plus élevé. Alors, au Real Madrid, par exemple, il représente 28 millions par saison. Alors, on voit bien la différence. Alors, effectivement, ils ont envie d'atteindre ce niveau-là, mais ils n'y sont pas encore.
Est-ce que, justement, ils peuvent atteindre ce niveau-là, coach, le PSG, avec voilà, un stade qui rapporte aussi de l'argent, pas seulement par sa billetterie, mais par son nom ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, non, mais c'est un vrai souci. Il faut savoir qu'on a, il y a quoi, il y a que 5 clubs seulement en Ligue 1 pour le moment.
On a la MMA, je crois, au Mans.
Il y a le Mans,
enfin en Ligue 1, on n'est plus en Ligue 1 là,
mais il y a Amiens,
il y a Bordeaux, il y a Nice, il y a Marseille,
exactement.
Il y a Lyon aussi, je crois, à Groupama.
Je suis d'accord avec Mariama, c'est en France ça dépasse pas en général les 3-5 millions comparé à Barcelone où il y a une proposition à 20 millions qui a été refusée parce que ils avaient envie de rénover leur stade. Et moi, je suis d'accord avec la grogne des supporters qui sont clairement pas d'accord avec ce changement de nom. Maintenant, c'est dans l'air du temps, comme tu l'as dit aussi. On se dirige quand même malheureusement vers ce changement.
Ok, mais Kamel, par exemple, quand on veut que maintenir un prix raisonnable des places dans un stade tel que le Parc des Princes, on critique assez souvent le système de billetterie en Angleterre qui a explosé, qui coûte beaucoup plus cher. Est-ce qu'on n'est pas justement obligé de passer par là, dans le cadre du PSG ?
Juste petite objection, votre honneur.
Je t'en prie.
Non,
Mariama.
Juste dire, est-ce que réellement on a envie de maintenir des prix bas ? Enfin, bas, entre guillemets.
Moi, je pose la question, est-ce que ça ne permet pas justement le naming de maintenir aussi des prix relativement, comment dirais-je, normaux pour un large panel de supporters ?
De toute façon, le PSG, ils ont, quoi qu'il arrive, ils ont besoin d'argent. C'est clair, net, parce qu'il y a le fair play financier. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils sont en train de renégocier. Ils ont renégocié le contrat maillot qu'ils ont multiplié par deux, ce qu'il faut savoir. Hein, il s'est multiplié par deux.
Par accord,
oui.
On parle, je précise, d'une somme supérieure à 50 millions d'euros sur trois saisons. Par saison, sur trois, voire quatre saisons.
Il ne faut pas oublier que le centre d'entraînement du PSG, c'est un naming aussi. Hein, le centre de formation aussi, c'est un naming. Donc je pense après qu'il faut, c'est vrai que ce que disaient Mariama et Claude, c'est vrai que sur faut compter entre 3 et 7 millions d'euros le naming par saison. Mais là c'est fait, c'est des contrats de 3 ans. Donc c'est justement des contrats sur 3 ans. Pourquoi ? Parce que le fair play financier, c'est sur 3 ans. Donc le club a le droit d'avoir une dette de 30 millions. Si le PSG arrive à négocier entre 8 et 10 millions sur 3 ans, ça fait 30 millions. Donc ça fera une rentrée d'argent légale et
ça paye les factures du docteur de Neymar.
Et non, mais ce qui est important c'est surtout au niveau du fair play financier. Donc ça paye les 50 millions. Je pense qu'ils vont tirer 10 millions. Après le naming, c'est pas le nom de Parc des Princes ne partira pas. Je veux dire, ils vont y apposer comme tu disais, ils vont y apposer un nom avant ou après, et les supporters l'appelleront toujours Parc des Princes, comme au Vélodrome l'appelleront Vélodrome. Le naming où le nom part, c'est quand c'est des nouveaux stades, comme l'Allianz Arena, comme le Groupama Stadium, etc. Mais moi, je pense qu'ils sont maintenant ils se sont aperçus qu'il n'y a pas de petites économies, ils sont obligés d'aller chercher l'argent où il est.
Karim Baldé, nécessité, idée farfelue.
Farfelue, non. Claude l'a dit, c'est dans l'air du temps. Alors, je rejoins ce que disait Kamel à l'instant. C'est vrai que, en général, ça sied plus aux nouveaux stades. Quand les stades n'ont pas de nom, au moins, on s'habitue plus vite, comme à Nice, par exemple. Le problème, c'est que le Parc des Princes va toujours s'appeler, dans le cœur des supporters, le Parc des Princes, qu'il y a un naming ou pas. On le voit avec le Vélodrome. On parle d'Orange Vélodrome. Non, personne ne dit Orange Vélodrome. Je vous pose la question à tout le monde. Personne va dire Orange Vélodrome dans la salle, ni les supporters. Donc, finalement, comment valoriser un contrat? Puisque c'est ça le cœur du sujet. C'est l'argent. Comment valoriser un contrat, même si c'est le Paris Saint-Germain et que ce sera un peu plus que deux stades? Comment le valoriser alors qu'en fait dans le quotidien ce sera très très peu utilisé? Quels sont leurs arguments pour faire justement un petit peu grimper ce montant? Donc au final ça va être un peu d'argent de poche. Alors je vous ai entendu parler de certaines sommes, oui, 7 millions, etc. Bon, peut-être que ça va permettre un peu plus d'entrer en faire play financier, mais c'est de l'argent de poche, surtout comparativement aux transferts que le PSG, même s'ils sont en faire play financier, essaiera de faire, à mon avis, d'ici un an, deux ans, trois ans, malgré cette limite-là.
Mariama, tu trépignes, je vois, allez-y.
Oui, non, mais j'allais dire justement que l'entreprise, la boîte qui décidera justement de sponsoriser ce stade, je pense, est-ce que ça les dérange vraiment qu'on continue de l'appeler le Parc des Princes? Regardez Bercy, tout le monde continue d'appeler Bercy, alors que qu'on ne l'appelle plus, logiquement, on ne devrait plus.
En tout cas, dans les médias, on a une, je crois, au moins une obligation de préciser le nom de stade. C'est fait pour, en tout cas. Et notamment les commentateurs à l'antenne ne peuvent plus dire stade Vélodrome.
Évidemment, c'est pour ça que justement, c'est intéressant à ce niveau-là. Tant que c'est une communication autour de ça, autour du nom, ça ne dérangera pas. Mais finalement, tous les supporters continueront de l'appeler le Parc des Princes. Les supporters et les autres à l'extérieur, tous les fans de foot en tout cas.
J'entends certains d'entre vous me dire que c'est des cacahuètes qui rentrent dans les comptes du PSG, 3, 4 millions, 5 millions. Vous êtes presque en train de cracher sur cet argent, mais on parle de millions d'euros. Et ça peut aussi aider au développement de certaines structures du PSG. Saïd, le centre d'entraînement, enfin le centre de formation, ça peut aussi apporter de l'argent dans ces équipes-là ou chez les féminines.
Mais surtout que je vois mal le PSG vendre ça pour 3, 4, 5 millions. Pour le coup, le PSG est un grand d'Europe, qu'on le veuille ou non. En termes de stature, c'est un grand d'Europe. Donc aujourd'hui, ils vont...
Un grand d'Europe, c'est un club qui a quand même gagné des Ligues des Champions,
non? Non, mais quand je te dis un grand d'Europe, aujourd'hui, dans la tendance, ils font partie du...
Il y a une volonté.
Ils font partie du top 8. Non,
en termes de budget.
Non, mais pas que du budget, mais même en termes d'effectifs, en termes de représentation. Nous, en France, on est toujours un peu compliqué avec le Paris Saint-Germain. Mais à l'étranger, tu leur dis Paris Saint-Germain, ça y est, c'est la folie, c'est une très grande équipe.
C'est de la communication.
Bah, tout part de la communication. Maintenant, la marque, elle veut s'associer au Parc des Princes. Pourquoi? Parce que le club a réussi à développer sa marque. Ils ont changé leur sponsor sur leur maillot. Ils ont négocié un contrat à 50 millions d'euros. Donc c'est un des quatre contrats les plus chers parmi les équipes. Il n'y a que le Real, le Bayern, le Barça et je ne sais plus.
Et Manchester United.
Et Manchester United qui sont devant eux. Donc ça montre qu'ils sont dans la cour des grands.
Ils sont
et
dans
sur le
temps,
naming du stade, n'importe quelle marque va vouloir s'associer au Paris Saint-Germain. Puisque le Paris Saint-Germain est une marque rayonnante au niveau national, mais surtout à l'international.
Et ben donc les enchères peuvent
donc
monter,
voilà,
Kamel.
Très mal le Paris Saint-Germain déléguer ça pour 3 millions.
C'est ce que je disais.
Improbable.
C'est entre 8 et 10 millions d'euros minimum. Minimum. Donc après.
Si c'est la banque qatari, oui.
Non, pourquoi?
Non,
regardez.
Non, la banque qatari,
mais
le faire plus
cramer, là,
c'est bon, ils ont arrêté.
Non, mais regarde.
Au Redou, machin, là.
Non, mais attendez.
On arrête tout ça.
Au Réo,
quelque chose du genre.
Non, mais Marie,
on peut avoir un gros contrat.
Eurosport Conseil, il paraît qu'ils ont de l'argent.
Regarde, Mariama, tu as raison. Regardez.
Au Réo.
Regardez là. Ils étaient avec. Non, mais vous rigolez, ils étaient avec Emirates. Le contrat était de 25 millions. Le groupe Accor a mis 50 millions. Le groupe Accor, c'est pas un groupe qatari que ça.
Ah, 50 millions minimum. Hein.
Minimum.
Attention.
Tu vois, ça veut dire que.
Le Qatar fait partie des principaux actionnaires.
Oui.
Donc il y a toujours un lien.
Ça veut dire qu'il y a une attractivité Paris Saint-Germain. Il y a une attractivité. C'est l'un des plus grands d'Europe au niveau politique.
Vous oubliez qu'Accor, en plus, c'est Sébastien Bazin qui était
au Paris Saint-Germain.
Il y a un lien aussi avec Nicolas Sarkozy qui est très proche, évidemment, du PSG. Donc, on va pas refaire encore. On va pas.
Paris aujourd'hui,
le Qatar est derrière tout ça aussi.
C'est grâce à Sarkozy. Si le PSG peut être aussi devenu aussi important, c'est aussi grâce à Nicolas
Sarkozy.
Je crois
toujours au parc. Je raconte la semaine dernière quand je serrais la main, on le voit tout le temps dans les couloirs après les matchs.
Claude, une petite question sur les supporters. Tu penses que ça va gêner les aficionados du PSG?
Ils appelleront toujours le Parc des Princes. Comme les supporters marseillais.
Ils sont capables de faire une manif, ou je sais pas, mettre un gilet jaune.
ils seraient prêts à faire une concertation. Ils demanderaient une concertation, en tout cas, mais ils appelleraient toujours le Parc des Princes, c'est normal, c'est l'enceinte, c'est le jardin.
Ça ne les gênera pas.
C'est une question de paperasse.
Au niveau communication, mais après, voilà, ils continueront à dire Parc des Princes. Tu vas à l'Orange Vélodrome, les supporters disent on va au Vel. Comme on l'appelle si bien, donc ça changera pas au niveau.
Je sais pas, moi je suis neutre.
Grand supporter, hein.
Je suis neutre.
Mais après les 3-5 millions, l'argent de poche, nous on les prend bien. Hein, l'USM vient renfler un petit club amateur, on les prend les 3 millions.
Hein, c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire exactement.
Ah ouais, attends, je te
le montre. Peux pas cracher sur une somme quand même.
Tu peux pas.
Évidemment, c'est petit par rapport au budget du PSG. Kamel, les aficionados du PSG, ils vont accepter que sur le stade il est marqué Parc des Princes, je sais pas moi, Orange. Ou pas.
Moi, je suis supporter de Marseille. Si demain ils veulent appeler le Vélodrome Frestagada et qu'il y a Messi qui joue, moi il y a pas de problème. Ils appellent Frestagada s'ils veulent le Vélodrome. Je pense qu'à un moment donné, quand on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre,
Bien sûr.
On va avoir des bons joueurs. Il y a un coût pour voir Neymar, pour voir Mbappé, il y a un coût. Avant, je me rappelle, j'allais au parc il y a 15-20 ans, c'était pas les mêmes joueurs. Je vais pas les citer pour pas me fâcher avec eux, mais c'était pas les mêmes joueurs. Donc je veux dire, il y a un moment donné, il y a un coût. Et maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec le fair play financier, 3 millions, c'est 3 millions d'euros, parce qu'ils peuvent plus alimenter comme ils veulent le Qatar. C'est 1 million, c'est 1 million d'euros, ils sont obligés. C'est ça, il n'y a pas de petites dépenses.
15 ans, il y avait Okocha quand même, hein, c'était pas mal Okocha.
Ouais, mais entre temps, il y en a eu d'autres. Hein.
Ouais, 15 ans, c'est ça, Okocha, Ronaldinho, Anelka, tout ça.
On se souvient des Souza,
allez, messieurs, on va passer à la suite dans quelques instants. On va tourner une petite page de respiration. On va parler futsal et du développement de ce sport aussi mythique avec notre ami Mustapha Othmani, ancien capitaine de l'équipe de France de futsal. À tout de suite dans Time Sport.
18h-19h, Time Sport avec Alexandre Seban sur Beurre FM. 18h-19h, Time Sport avec Alexandre Seban sur Beurre FM.
Allez, bienvenue dans Time Sport, les amis. Si vous venez à peine de nous rejoindre, aussi bienvenue à vous, les auditeurs, les auditrices. 01 53 48 3000 si vous voulez nous passer un petit coup de fil par les football et futsal, par exemple. Puisque maintenant, c'est parti avec nos chroniqueurs Saïd, Mariama, Karim, Kamel et Claude. On va parler de futsal avec un super invité, les gars. C'est un bijou. Attention, c'est parti, c'est l'incroyable mais vrai.
Time Sport.
Et oui, mesdames et messieurs, un bijou. Ancien capitaine de l'équipe de France de futsal. On vous apporte du lourd dans Time Sport, comme dirait Bilou, Bilal, Nedman. On te salue, on sait que tu es derrière... ton poste et que tu nous écoutes. Monsieur Mustapha Othmani, déjà bonsoir, rebonsoir, parce que je t'ai salué déjà en entrée tout à l'heure.
Bonsoir à tous.
Bienvenue dans l'émission, évidemment. Bon, tu vas nous parler un petit peu de futsal. Toi qui es donc, comme je viens de le dire, ancien capitaine de l'équipe de France, également directeur sportif de l'UF Clichois, c'est dans le 93, c'est Clichy-sous-Bois. C'est ça. Ok, hors antenne, j'ai fait une boulette, j'ai dit Clichy-la-Garenne, les gars, je me suis trompé. Mais non, c'est Clichy-sous-Bois. Donc voilà, tu es là pour nous parler donc de futsal. Tu peux d'abord te présenter et nous expliquer comment toi tu es venu à pratiquer ce sport dans ta jeunesse.
Donc voilà, moi c'est Othmani Mustapha, donc ancien capitaine de l'équipe de France de futsal. Donc déjà, comme tout le monde on va dire en France, j'ai commencé par le football à 11. Donc parce que le futsal n'était pas encore structuré en France. Donc et petit à petit, il y a eu des clubs qui ont émergé. En Île-de-France, surtout en Île-de-France, parce que c'est aussi de là que ça a commencé, Île-de-France.
C'est à peu près il y a combien de temps, ça ?
15 ans, à peu 15 près. 15 ans à peu près, ouais.
15 ans d'années. Début des années 2000, quoi, grosso modo.
C'est ça, c'était ça. C'était en 98, à peu près. 98.
Ok.
Donc, et puis de là, il y a une proposition d'un club qui avait monté une structure pour faire le championnat.
D'accord.
De Paris-Île-de-France.
À la base, toi, tu viens du foot à 11.
C'est ça.
Tu as beaucoup joué au foot à 11, évidemment. Et là, tu as eu une proposition, tu y es allé.
Voilà, j'ai eu une proposition, j'y suis allé. Donc, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce sport-là, qui ressemblait un peu au foot de quartier.
D'accord.
De quartier, parce que dans les quartiers, on jouait dans les petits espaces. C'était assez technique. Et du coup, ça m'a plu directement.
Et pendant combien de temps tu es resté en équipe de France? Tu as débuté en quelle année en équipe de France et tu y es resté capitaine? Tu as gagné des titres peut-être, tu peux nous en parler.
Au niveau international, j'ai pas gagné de titre.
D'accord.
Au niveau national, et puis j'ai.
Mais tu as joué une Coupe du Monde ou tu as joué des championnats
des
comme ça?
Des éliminatoires.
Des éliminatoires
de Coupe D'accord. du Monde, de Coupe d'Europe.
D'Europe également.
Donc moi j'y suis depuis 2000. J'y étais depuis 2005. Mm-hmm. Depuis 2005 en équipe de France. Et après j'ai notamment joué énormément à l'étranger pendant 10 ans et demi.
À quel endroit?
Je suis parti, j'étais au Portugal.
Ouais.
Bon, ça, c'était au football à 11. C'était en Ligue 2, à 11 pendant 3 ans et demi. Après, je suis parti sur l'île de la Réunion, football. Mmh. En futsal, j'ai été au Monténégro. Donc, j'ai participé à la Ligue des Champions au Monténégro. Et j'étais sur l'île de Chypre pendant 4 ans et demi.
D'accord, tu as fait un petit tour quand même. Hein. Tu n'es voilà, pas resté, tu n'es pas cantonné.
Là-bas, j'ai pu remporter pas mal de titres là-bas, notamment championnat, coupe. À peu près 4 coupes à Chypre et 4 championnats.
Et aujourd'hui, directeur sportif de l'UF Clichois, donc.
Voilà, je suis aussi notamment directeur sportif de l'UF Clichois et entraîneur des U19.
Kamel, une première question pour notre invité.
Oui, c'est vrai que le foot en salle n'est pas très, très développé en France. Hein, c'est vrai que... qu'est-ce que tu préconiserais pour qu'on puisse, toi qui as une grande expérience du foot en salle à travers tes expériences européennes et dans des pays qui sont à la pointe, hein, comme l'Espagne, le Portugal, qui sont à la pointe du foot en salle, qu'est-ce que tu préconiserais pour qu'en France, le foot en salle prenne plus de place et soit mieux structuré? Moi, j'ai une idée, mais je te laisserai la primeur.
Déjà, qu'on nous donne les moyens matériels, On demande même pas de moyens financiers. C'est vraiment des moyens matériels. Un gymnase, ça suffit. Ça suffit pour pouvoir pratiquer le futsal. Donc on a besoin de rien d'autre. Ensuite, je pense que beaucoup de clubs devraient monter des académies de futsal. Ça, c'est super important pour pouvoir développer les équipes d'après. Donc tout ce qui est après, faut savoir une chose, c'est qu'il y a quand même des critériums U15, U18, U19. Donc toutes ces choses-là, on a également une équipe de France U19 qui actuellement fait les éliminatoires, qui va bientôt jouer les éliminatoires de Coupe d'Europe, et on a une équipe U21 et une équipe senior.
Le futsal, ça se joue à combien pour ceux qui ne savent pas?
4 joueurs de champ plus un gardien.
Voilà, c'est un peu du 5. Ça se joue à 5.
C'est un peu du 5. Ah ouais, un peu.
Le terrain est plus grand.
Avec le même, alors, quand même. Avec le même nombre de joueurs, c'est un peu comme du 5.
C'est un peu comme du 5. Évidemment, le terrain est pas exactement de la même dimension, si j'ai bien compris. Mais est-ce que, justement, avec l'apparition du football 5, comme on voit se développer en Ile-de-France et partout en France actuellement, depuis, on va dire, 10 ans à la louche, Tu vois des nouveaux arrivants dans les clubs de futsal pour dire, allez, moi, voilà, j'ai tapé un peu le ballon en foot 5, et maintenant j'ai envie de me donner dans un foot qui est pas exactement le même, évidemment, que le football à 11, mm-hmm. mais voilà, être dans une association, dans un club, participer à des coupes, des championnats. Est-ce que tu vois des nouveaux arrivants qui te viennent, allez, du 5, j'imagine aussi un petit peu du 11. Un peu plus qu'avant. Est-ce que tu vois des gens arriver plus qu'avant?
Qui viennent du 11.
Du 11 et du 5.
Du 11 au futsal, ouais, énormément. On a de plus en plus de licenciés en France au niveau du futsal. Il y a de plus en plus de clubs qui se montent en France également. Donc du coup, beaucoup plus de licenciés, parce que quand on voit tous ces joueurs brésiliens comme Ronaldinho, Neymar, qui ont débuté par le futsal. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup de parents qui veulent inscrire leurs enfants au futsal pour perfectionner leur technique, déjà, pour commencer. Et du coup, ils se disent, bon, mon fils, techniquement, ça va être un monstre. Et après, en même temps, on va le remettre tout de suite à 11.
Karim. Saïd. Karim est là. Saïd est là. Saïd, tu avais une question pour notre invité Mustapha Othmani.
J'avais une question sur la tactique, notamment dans le futsal, parce que j'en ai fait un petit peu. Est-ce que c'est pas ça le plus dur à s'accaparer dans le futsal? C'est pas la tactique?
C'est très, 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 très difficile. Il faut être patient, déjà. Pour commencer, il faut être très, très patient. Et c'est beaucoup de combinaisons, beaucoup de choses. Après, malheureusement, en France, on n'a pas de culture tactique. Elle n'existe pas, la culture tactique. Elle vient des pays d'Amérique latine, elle vient des pays ibériques, comme l'Espagne, Portugal. Donc, la tactique, c'est très compliqué. C'est la chose la plus difficile dans le futsal, de pouvoir assimiler plein de combinaisons en tête.
Parce que, ouais, en fait, limite, on apprend le match avant qu'il se joue. En fait, il y a des phases où les déplacements, on les apprend par cœur et on fait des stratégies.
Faut vraiment les apprendre par cœur, mais... il y en a énormément à apprendre. Donc, des fois, on peut se gourer. Et,
c'est vrai, c'est pour ça que j'ai fait que 3 mois après. C'était trop dur pour moi, je suis retourné au puzzle après.
Mais c'est vrai que c'est un peu comme au football américain, en termes de stratégie, justement, parce que vous dites, voilà, il y a les phases de jeu comme ça très travaillées. Est-ce que, enfin, comparativement avec le football américain, où justement, il y a des playbooks qui sont hyper travaillés, etc., et qui s'appliquent au moment où le match arrive?
Moi, je pense plus que le futsal, ça ressemble au basket et au handball. Ça ressemble, tactiquement, ça ressemble beaucoup plus au basket, au handball, parce que on a des postes aussi, on a des postes prédéfinis. On a un pivot, on a des ailiers, on a un homme de base, ce qu'on appelle un homme de base qui joue derrière. Donc du coup, ça ressemble beaucoup plus au basket niveau tactique, je trouve.
Vas-y coach, le coach Tollet qui est avec nous évidemment, qui filme notre interview bien sûr, mais il peut poser une question.
Moi j'avais une question, est-ce que le 5 n'est pas un frein, une concurrence au futsal? Quand on voit on voit que ça se développe quand même pas mal, il y a de plus en plus de monde qui pratique, est-ce que ça ne serait pas un frein pour le développement de la discipline?
Non, perso, je trouve pas. Après, chacun y trouve son compte. Il y en a qui vont plus apprécier le futsal parce que ça joue sur du parquet ou des choses comme ça, et parce que il y a des règles spécifiques. Même si au 5, il y a des règles spécifiques aussi. Mais je pense que chacun trouve son compte. Après, on a beaucoup de gens qui font les deux, futsal et foot à 11, parce qu'ils aiment les deux, ils ont du mal à faire un choix aussi. Mais non, je pense pas que ce soit un frein.
Ouais, justement, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de gens qui pensent que les gens qui jouent en futsal ne seraient pas capables de jouer sur un grand terrain à 11. En tout cas, qui n'auraient pas le bagage suffisant en tout cas pour pouvoir jouer et tactiquement et physiquement. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre à ces gens-là?
Ben, on a des exemples. Oussam Ben Yedder, qui vient du futsal. Moussa Sao, qui vient du futsal. Bon, Oussam Ben Yedder, on connaît un peu son parcours.
Le plus connu, oui.
Séville, qui a joué au futsal pendant pas mal d'années, qui a côtoyé l'équipe de France aussi pendant une année à peu près. On a Moussa Sao, qui a côtoyé, le futsal en club et en équipe de France, qui a joué au Havre, Sochaux, et qui est actuellement au Restar. C'est des joueurs qui viennent aussi du futsal. Donc, après, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on commence vraiment que par le futsal et qu'on ne fait pas trop foot à 11, on perd ses repères au football à 11. Ça, par contre, c'est véridique. C'est aussi un peu compliqué.
Kamel, j'ai d'abord une question pour toi, figure-toi, dans le sujet. Toi qui as été président de club de football, est-ce que tu conseilles pas aussi aux joueurs de passer par le futsal pour aussi travailler un peu plus leur technique avant de basculer vers du football à 11?
Oui, c'est ce qu'on a mis en place au niveau des présidents, et moi je l'ai mis en place. C'est-à-dire qu'on a créé des sections futsal pour les enfants. Normalement, les débutants ils commencent à 6 ans. On a créé des sections à 5 ans et qui commencent par le futsal, et les débutants, on essaie de les mettre le plus souvent en gymnase, donc on essaie de récupérer des créneaux, et donc les enfants avant d'être en U7, ils avaient déjà 2 ans de futsal dans les jambes, donc ça permettait vraiment de travailler la technique, la vivacité. Mais ce qui est le plus important, c'est de travailler la technique. Ça permet de travailler la technique, et après quand ils vont au foot à 7 ou à 8, ils ont moins l'impression de se perdre, parce qu'il y a l'espace est plus réduit que de les mettre directement au foot à 11, et là ils sont un peu perdus. Mais ce que je voulais rebondir sur Claude, ce que disait Claude, ce qui est important, la concurrence, c'est pas le Five qui l'a fait. Les Five se sont développés parce que les clubs sportifs de football n'avaient pas les créneaux pour les gymnases, ce que tu as dû vivre. Donc, comme les clubs de foot n'avaient pas les créneaux pour les gymnases, il n'y avait pas d'infrastructure, donc on était obligés d'aller Five payer pour justement faire les entraînements de Five. Donc, ils se sont développés grâce à ça. C'est-à-dire, si les clubs avaient les structures, les Five ne seraient pas autant développés.
Claude, tu as peut-être une autre question, mais j'ai une question justement en rapport avec toi, puisque les auditeurs et les auditrices le savent, tu es entraîneur d'équipe féminine. Et Moustapha, est-ce que tu vois arriver des filles au futsal également? On voit que les filles jouent de plus en plus au football, on va organiser dans quelques mois la Coupe du Monde de football féminine, je ne sais plus comment on dit, du coup je me trompe à chaque fois.
Féminine.
La Coupe du Monde de football féminine. Donc, est-ce que tu vois débarquer des filles au futsal?
Ça existe déjà.
Mais est-ce que tu en vois de plus en plus, ça que je veux dire?
Il y en a de plus en plus. Ben, j'ai été coach des filles au futsal. J'avais une équipe futsal féminine. Donc, oui, ça existe depuis pas mal de temps. Il y a même un championnat qui se joue avec un championnat en Ile-de-France. Et justement, on essaye à ce que ça se développe de plus en plus dans toute la France. Donc, ça existe aussi dans toutes les régions.
Alors, je sais que tu as envie aussi de nous parler de cette Copa internationale de foot à 7, à laquelle vous avez participé avec ton groupe. C'était au Pérou, c'était pour le compte de la Team Mambo. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est que la Team Mambo et qu'est-ce que c'était que cette compétition de foot à 7 au Pérou?
Donc, voilà, on a participé à la Copa intercontinentale au Pérou, du football à 7, une discipline qui est aussi en pleine expansion en France. On ne parle pas assez, bien sûr. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Une fédération de football à 7, justement, dont justement la Mambo Sieben, qui est l'un des précurseurs de ce football à 7, qui a fait connaître aussi le football à 7 des équipes françaises à l'international, parce qu'il n'y a pas eu que le Pérou. Il y a eu le Mexique, il y a eu le Guatemala juste avant. Et bientôt, il va avoir une affiliation avec un groupe international de football à 7, une affiliation de 3 ans, justement, avec une équipe française. Et on était là-bas, justement, pas pour représenter la Mambo, mais aussi pour représenter l'équipe de France.
Karim, une dernière question.
Alors, j'avais une dernière question, je vais la faire très courte.
par rapport à la Fédération française de football, parce que la France est championne du monde, la FFF a des moyens, et pourtant on a l'impression qu'elle ne s'occupe pas vraiment du futsal. Quels sont les rapports entre le monde du futsal et la grande FFF?
Vas-y, tu as 25 secondes.
Donc, pas.
Je lui ai mis la pression, fallait pas dire ça.
Pas de fâcher avec la FFF, hein.
Non, après.
Il y a des conflits dont on ne veut pas parler.
Non, c'est vrai, le salaire des joueurs.
Après, en fait, la FFF, elle a mis du temps pour développer le futsal, c'est vrai. Ouais. Ça arrive petit à petit.
Combien sont payés les joueurs de l'équipe de France? C'est pas 500 euros tous les 5
matchs. Ça sera la dernière question. 10 secondes.
C'est ça.
500 euros tous les 5
Exactement.
Matchs.
Exactement. T'es bien renseigné en tout cas.
500 euros combien?
Tous les 5 matchs.
Tous les 5 matchs.
J'allais faire une petite carrière dans le futsal, j'ai vu que c'était 500 euros tous les 5
matchs. Donc 100 euros par match. Moi je fais la division.
500 euros tous les 5 matchs. Peugel.
Allez messieurs, on remercie Mustapha Othmani. Tu restes avec nous, Mustapha, avec grand plaisir. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Time Sport.
18h-19h, Time Sport avec Alexandre Seban sur Beurre FM. 18h-19h, Time Sport avec Alexandre Seban sur Beurre FM.
Allez, on est de retour ici dans Time Sport, les amis, avec Saïd, Mariama, Karim, Kamel, Claude, le coach Tolé qui est là-bas dans le coin, mais il va revenir au micro tout de suite. Et notre ami Mustapha Othmani. Allez, on est reparti, c'est la victoire maintenant, les amis.
Time Sport, la victoire.
C'est quoi? C'est la victoire de la logique, la victoire de l'UEFA, la victoire de l'intelligence face à la bêtise, la victoire ou la défaite plutôt même de la tactique. La tactique, les amis, de Sergio Ramos, qui a fait exprès il y a pas longtemps de prendre un carton jaune. En tout cas, c'est ce qui lui l'a dit, qu'il avait fait exprès, Mariama, de prendre un carton jaune en Ligue des Champions lors du match aller de huitième de finale face à l'Ajax. C'était là-bas à Amsterdam. Qu'en penses-tu? La sanction est justifiée, il a pris deux matchs.
Alors d'abord, je voudrais dire que c'est plutôt intelligent en soi.
À la base.
Ce qui est moins intelligent, c'est de le dire.
Tout à fait.
Mais ils sont nombreux à l'avoir fait avant. Ils ne l'ont pas forcément dit. Mais certains ont déjà été sanctionnés auparavant, donc c'était logique. C'est comme une jurisprudence. Bah, évidemment, derrière, il risquait d'être sanctionné. Il l'a été, c'est logique. Mais ce n'est pas cher payé au final, parce qu'il ne prend qu'un match de plus. Il fera le match retour de quart de finale s'ils sont qualifiés, évidemment, et je pense qu'ils le seront. Donc, a priori, rien de grave en soi.
Karim.
Bah Sergio Ramos, franchement, c'est un peu la palme d'or finalement, parce que voilà, pour tout le vice qu'il a sur le terrain, toutes les petites fautes qu'il fait, le peu de carton rouge qu'il prend en rapport avec toutes ces fautes-là qu'il peut faire, il y a finalement une justice en ce monde avec cette sanction. Alors, en plus, il s'est dénoncé lui-même, donc c'est quand même pas très malin, mais il y a quand même une petite justice à voir Sergio Ramos suspendu deux matchs. Moi, ça me, je peux pas dire que ça me satisfait, mais voilà, on est tous un peu heureux quand même, tous qui aiment le football aiment quand même qu'il y ait un peu de justice.
Il prend qu'un match de plus finalement.
Oui, il aurait pu prendre un peu plus quand même, hein, pour avoir avoué.
Il manquera l'aller en quart de finale, quoi.
Non, mais après, il n'y a pas 50 matchs en Ligue des Champions.
Vas-y, Saïd.
Combien on va lui mettre? C'est pas 3? Non plus. Bah, 3, ça veut dire qu'il va rater tous les quarts et tout.
Oui,
les...
alors.
Non, mais ça va, il a pas tué quelqu'un non plus. Il a juste fait exprès de prendre un carton jaune. Et en plus, il aurait pu dire que je l'ai dit.
C'est de la tactique en plus.
Mais
c'est...
il l'a dit justement, il a dit que non, c'était pas vrai. Finalement.
Voilà.
Il a essayé de se rattraper comme il pouvait. C'était trop tard, mais.
Oui, c'était un peu trop tard. Mais c'est assez étonnant, je trouve, de la part de Sergio Ramos, qui est un joueur quand même confirmé, assez expérimenté, qui a du vécu, de faire une erreur aussi facile en fait.
Mais d'autant que son coéquipier l'avait fait déjà l'an dernier, donc Dani Carvajal. L'avait fait l'an dernier, donc
c'est
a priori.
C'est monnaie courante dans le foot.
Non mais il a été sanctionné aussi. Donc a priori, il avait cette expérience-là, il le savait.
Il y avait la jurisprudence Carvajal et cette. Non, je peux pas dire ça.
Carnaval.
Mais, non, et notre ami, et notre ami Sergio Ramos l'a oublié peut-être. Il avait oublié. Kamel, tu voulais dire quelque chose évidemment là-dessus.
Non, c'est vrai qu'il y a une jurisprudence, mais moi je vais me faire l'avocat du diable. Pourquoi sanctionner des joueurs qui cherchent à avoir des cartons jaunes? Je comprends pas, c'est pas une faute d'avoir un carton jaune. On est déjà une fois sanctionné
si,
quand
on fait une faute pour avoir
oui,
un carton
voilà,
jaune.
Oui, voilà, oui, c'est vrai. Non mais là ce que je veux dire, c'est la double non, une faute dans la faute, ça veut dire que le fait d'avoir un carton jaune, c'est une faute, une double faute.
Provoquer un carton
voilà.
jaune.
On a le droit de provoquer.
Répréhensible par la suite.
Voilà.
C'est un débat de fond qu'on pourrait poser.
C'est vrai.
Il
y a pas de loi qui interdit de prendre des cartons jaunes volontairement. Il y a pas de loi.
Ouais,
un carton rouge ou
quoi. Il y a quand même l'esprit qui l'interdit un petit peu. Exprès de prendre un carton jaune en pensant à la suspension.
Bah c'est ça, tout est calcul dans le football. C'est stratégique, je suis désolé.
Mustapha, c'est l'esprit.
Face au gardien, on fait une faute et puis voilà.
Mustapha, c'est Mustapha.
Les amis, oui, je vais être naïf, mais quand même à un moment donné, on peut pas laisser passer les gens qui font vraiment exprès de faire une faute.
Pourquoi? En quoi?
Mais alors, Karim, justement, on a des fouteux là. On a des fouteux, des gens qui bossent sur le terrain, qui en ont fait pendant les années capitaine de l'équipe de France de futsal sur le terrain. On a le droit de faire une faute, c'est tactique.
Après, c'est une pratique qui est tellement courante depuis des années et des années. Donc, après, c'est juste le fait de le dire qui fait que
Tu passes pour quelqu'un d'immoral.
Surtout pour une personne comme Sergio Ramos. Il n'a pas le droit de venir de parler de ça. Tu le prends et puis basta.
Oui, surtout qu'il sait qu'il va se faire tomber dessus.
Mais toutes ces choses-là sont dites déjà dans les vestiaires. Avant le match, on est déjà dans les vestiaires. Le match, il n'a pas commencé
encore. C'est tactique.
Que, ouais. Bon,
c'est pensé.
80e minute, 70e minute, 90e minute, tu prends ton petit jaune, quoi. Ouais. Tu prends ton petit jaune et puis basta. Après... Derrière, il a
pas la
polémique là-dessus. C'est déjà préparé. C'est comme une tactique. On prépare une tactique d'avant-match. Bah, elle fait partie de la tactique.
Claude, tu prépares les cartons jaunes avant ou pas?
Est-ce que je prépare?
Non, c'est... Est-ce qu'il dit?
Tu crois que j'aurais envie d'être suspendu par la Ligue, là?
Non, mais non, erreur de communication de sa part, tout simplement. Maintenant, c'est partie du jeu aussi. Hein, d'en prendre hein, les gardiens dans un autre cas de figure. Gagne bien du temps et prenne un carton jaune. Enfin bref, voilà. Erreur de com, mais bon, après de là être suspendu.
Non, c'est vrai, l'erreur qu'il a faite, c'est de l'avoir dit. Donc l'UEFA s'est senti obligé de le sanctionner. Mais je veux dire, on peut pas apporter. Comment fait-on pour apporter la preuve qu'un joueur a fait exprès d'avoir fait une faute? Surtout un joueur.
Dans le cas présent, c'est pas compliqué.
Voilà, c'est ça. Non, mais en dehors de l'aveu du joueur, comment c'est impossible? Surtout un joueur expérimenté comme Sergio Ramos.
Donc la faute est vraiment trop grossière et que l'UEFA souhaite éventuellement le confronter. Mais là, c'était pas le cas, par exemple.
Non, c'était pas le cas. Donc à la limite, l'erreur qu'il a faite, c'est de l'avoir dit, c'est tout. Et c'est une erreur de débutant.
De com, c'est tout.
Vas-y Claude, vas-y.
Non mais c'est tout, non, mais ouais, erreur de com. Il sera suspendu, il jouera le match retour, quart de finale, voilà, hein, après.
Et même double foot, parce qu'il y a l'erreur de com de le dire, mais il y a aussi le communiqué derrière où il essaie de rétro-pédaler lentement en disant oui, c'est pas tout à fait ça, etc. Honnêtement, une fois que la boulette elle est faite, ça sert à rien de revenir là-dessus. Il avait qu'à laisser couler.
Ouais, je pense qu'avec l'UEFA, il vaut mieux revenir là-dessus.
Ouais
mais le mal était déjà fait. Honnêtement, le mal était déjà fait. Donc, je pense pas qu'il aurait échappé à sa suspension, même non, sans se communiquer.
Il aurait pas échappé à sa suspension, mais elle aurait pu être plus grave, peut-être.
Il y a pas de problème de fair play, selon vous, dans cet agissement.
C'est pas du fair play, c'est tactique. C'est-à-dire, t'as un joueur qui est sous le coup d'une suspension. Tu préfères qu'il joue le quart de finale ou la demi-finale plutôt que de jouer le match retour, tout en sachant que le match retour, c'est gagné. C'est normal, ils veulent pas se priver d'un quart ou d'un demi. C'est un joueur qui est pressé.
Les demi, de toute façon, la question ne se pose pas puisque les cartons sont remis à zéro.
Oui, voilà. Non, mais je veux dire que lui, c'est ça le but, mais je parle en règle générale. Si un joueur a un carton jaune, il y a bien des causes qui font sortir leurs joueurs au bout de 40-50 minutes pour pas qu'ils reprennent un carton jaune pour le match retour. Donc ça aussi, ça pourrait être sanctionné.
En soi, oui, c'est anti-fair play. Mais tout le monde le fait, et puis sur le terrain, comme je le disais tout à l'heure, quand un joueur se présente seul face au gardien, on fait une faute, et puis on est sanctionné par un carton, et puis voilà quoi, c'est un peu la même chose. C'est la même chose, on pense à l'avenir et à l'après, et à sa qualification, et à jouer, et tout simplement, c'est logique.
Mesdames et messieurs, autour de cette table, on va passer au sujet suivant. Et je suis désolé de vous dire ça, je sais que vous trépignez d'impatience. Vous avez envie, vous en aviez envie, vous l'attendiez, vous aviez plein de questions. Et ben malheureusement les amis, vos questions vont rester au vestiaire.
Non.
Malheureusement notre invité ne peut pas être avec nous par téléphone, on voulait parler du championnat du monde de tonte de mouton. Et oui, c'est un sport, Christophe Riffaut malheureusement est dans le train, la connexion passe mal, il s'excuse. Malheureusement on va passer à la suite, alors voilà, je vous laisse le temps d'un jingle, le jingle de la réflexion. Et on va parler de...
Des féminines, par exemple ?
Des féminines, allez. C'est le mode pressing.
Time Sport, le mode pressing.
Les amis, on parlait de la Coupe du Monde féminine. Je l'évoquais tout à l'heure. Coupe du Monde 2019, féminine de football. À 3 mois du Mondial en France, les Bleus, qui restaient sur 8 victoires d'affilée, ont été battus par l'Allemagne 1-0. C'était hier à Laval en amical. Vous pensez que c'est inquiétant, à quelques semaines de la Coupe du Monde, voilà, une défaite face aux voisins allemands, est-ce que c'est grave, est-ce qu'on doit s'inquiéter tout de suite ou voilà, faut pas
honneur aux dames,
voilà,
non, mais avant une
on s'inquiète
monde,
ou pas,
il y a jamais
Mariama.
D'inquiétude, on teste les choses, on prépare des choses, donc il y a pas d'inquiétude à avoir quand on perd un match pour une préparation de Coupe du Monde, il y a pas de problème là-dessus en soi. Maintenant c'est une petite défaite sur le plus petit des scores, donc en quoi réellement ça poserait problème? Au contraire, justement, c'est l'expérience. Ça permet de voir où est-ce qu'on va pouvoir corriger les choses. Et là, il y a certainement eu des soucis défensifs et qu'il va falloir corriger pour le Mondial.
Problème défensif, certes, mais problème offensif également. Alors que dans le football féminin, on a souvent l'habitude de voir des 3, des 4, des 5
zéro ou même plus. Alors, je veux dire, pas forcément, les deux équipes peuvent marquer des buts, évidemment.
Hein.
Mais au niveau international également. Je peux te le dire, j'ai vu des matchs de football féminin, que ce soit international ou en Europe. On l'a vu au Parc des Princes,
arrive,
notamment, c'est déjà arrivé.
Ça arrive, mais moins quand c'est du très très haut niveau. Voilà. Et hier, France-Allemagne, c'était la confrontation entre deux grandes équipes mondiales. Après, en attaque, il faut aussi dire qu'il n'y a pas Eugénie Le Sommer, par exemple.
Voilà, c'est problème offensif également, on peut le souligner.
Et en deuxième période, on l'a vu finalement, les Françaises ont beaucoup mieux joué, puisque les joueuses le disent elles-mêmes, comme Gaëtan Tinet, par exemple, elles ont raté leur entame de match. Et effectivement, quand tu commences pas un match du début, ça devient compliqué derrière. Et les Françaises ont couru après le score. Elles ont eu des opportunités, mais finalement...
Manque de réalisme.
Manque de réalisme et même manque d'occasion, d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas eu tant d'occasions que ça, finalement, dans le match pour les joueuses de l'équipe de France. Donc, finalement, c'est peut-être là où il va falloir travailler. Et c'est, Corinne Diacre le disait, bon, une défaite, c'est jamais bien en soi. Mais quand même, ça remet un peu du plomb dans le cerveau. Parce que, comme il y avait toute cette série depuis un an, et puis là, l'enthousiasme, la Coupe du Monde est arrivée. Là, vaut mieux que ça arrive maintenant, au mois de fin février donc, et début mars pour la suite de la préparation, que en mai, quand tu auras les dernières échéances avant le mondial.
Coach Tollé, claque nécessaire et utile, nous dit Karim Baldé.
Bah, les Bleus ont affronté l'Allemagne. C'est clairement une des favorites pour la Coupe du Monde aussi. Voilà, hein,
bien sûr, on ne perd pas contre un perdant de l'année. Tu
affrontes une concurrente directe au titre suprême. Donc après, c'est un bon test et ça te permet de voir que va falloir aller là. La chercher cette Coupe du Monde parce qu'elle sera
oui c'est pas du tout cuit
elle sera quand même pour moi très délicate à aller chercher. C'est vrai qu'on est un petit peu déçus parce que elles enchaînaient sur une série plutôt intéressante, elles avaient quand même tenu tête aux États-Unis, etc. Maintenant voilà, t'es au mois de mars, il y a encore quelques réglages à faire. Voilà, la vérité se déroulera dès début juin, mais après il y a rien d'alarmant.
Kamel, qu'en penses-tu?
Moi, je dirais que c'est une défaite encourageante, comme on a tendance à dire.
Ah non, c'est du rugby, ça, la défaite encourageante.
Non, c'est une défaite encourageante, parce que c'est bon, comme disait Coach Tollet, c'est quand même l'Allemagne, c'est l'une des équipes féminines qui a le plus de titres, hein, deux fois championne du monde, championne olympique. Voilà, donc perdre contre 1-0 contre l'Allemagne. Et puis à la limite, hein, c'était comme France 98, hein, vaut mieux perdre ses matchs amicaux et être champion du monde que gagner tous ses matchs amicaux et ne pas être champion du monde. Donc non, 1-0, c'est moi si j'étais coach de l'équipe de France féminine, 1-0 contre l'Allemagne, je m'inquiéterais pas plus que ça.
Mustapha Othmani, est-ce que ça t'inquiète, toi qui as coaché également des féminines? Tu vois un petit peu voilà le parcours de cette équipe de France qui l'emmène jusqu'à sa Coupe du Monde au mois de juin. Qu'en penses-tu globalement, pas forcément sur ce match-là face à l'Allemagne, mais globalement, comment tu juges le football féminin de haut niveau et notamment celui des Bleus?
Ben moi, j'ai eu la chance de pouvoir les voir jouer plusieurs fois.
Bien sûr.
L'équipe de France féminine, ouais. Donc, notamment au tournoi de Chypre, où elles sont invitées régulièrement au mois de mars. Et je pense qu'elle est en énorme progression, parce que le football féminin en France, il progresse énormément. Quand on voit des équipes comme Lyon et Paris Saint-Germain, qui sont souvent dans les derniers carrés de la Ligue des Champions, c'est encourageant. Après, voilà. Elle perd pas non plus contre n'importe qui. Elle perd contre l'Allemagne. Ça, c'est clair et net que c'est du gros calibre. Elle a peut-être perdu contre la future finaliste de cette coupe. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Donc maintenant, l'avantage qu'il y a, c'est que ce sera en France. Donc
il y aura un engouement supplémentaire, une euphorie.
On a des cartes à jouer justement comme ça en France. On a toutes ces cartes là à jouer quoi. Donc peut-être perdre ce match-là et gagner le match le plus important.
Claude.
Corinne Diacre l'a dit, ça va les faire redescendre sur terre. C'est vrai que t'as cet engouement qui est en train de monter, de monter, de monter. Les stades risquent d'être pleins. On va avoir des diffusions de matchs sur TF1, etc. Mais voilà, ça, les filles vont devoir travailler et cravacher. Après, comme l'a dit le directeur sportif aussi, là t'es à la maison, on va avoir un engouement, on l'espère positif et ça peut jouer en leur faveur.
Merci donc pour cette émission. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute de Time Sport aujourd'hui encore, les amis. Merci à Mustapha Othmani, directeur sportif de l'UF Clichois. Merci à tout le monde, les chroniqueurs, nos amis. Et Time Sport revient évidemment lundi. Allez, à très vite dans Time Sport.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.